Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mac Carney, qui souligne combien l'appartenance à l'Union européenne a bénéficié au Royaume-Uni dans la foulée, celui de la Banque centrale européenne, Mario Draghi qui prend la parole pour maintenir à leur niveau les taux d'intérêt européens, et la planète financière qui attend l'intervention de Janet Yellen la semaine prochaine, la gouverneure de la Réserve fédérale américaine. Les gouverneurs de banques centrales font figure d'oracle. Leurs déclarations sont épluchées, disséquées, commentées par les spécialistes et par ce qu'on appelle les marchés. Le nom de ces gouverneurs fait parfois débat. Exemple, cette pétition de 150 économistes français hostiles à la nomination de François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France. Depuis, le Parlement a validé cette nomination, mais décidément, oui, les banques centrales sont au centre du monde. D'où cette émission au cours de laquelle nous allons nous demander quel est le rôle de ces institutions, comment elles fonctionnent en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, et depuis quand elles font la pluie et le beau temps sur les marchés mondiaux. Tout cela avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jezabel Coupet-Soubeyran.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Jezabel Coupet-Soubeyran, vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Vous êtes aussi maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous venez de publier aux éditions Michalon un livre intitulé « Blabla Banque », sous-titré « Le discours de l'inaction ». Dans ce livre, vous dénoncez l'influence du lobby bancaire auquel vous reprochez de s'opposer au renforcement de la réglementation financière. Est-ce que ce lobby bancaire pèse sur la nomination des gouverneurs des banques centrales dans le monde ?
Oui, je pense qu'il pèse effectivement sur beaucoup de décisions. Mais ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est décrypter le discours du lobby bancaire qui repose sur des figures rhétoriques qui sont bien connues.
Lesquelles ?
Alors, ces trois figures, elles ont été très bien démontrées par Albert Hirschman. Et en gros,
qui
si vous voulez, c'est...
Alors,
Albert Hirschman, c'est une figure exceptionnelle. On pourrait faire toute une émission dessus. C'est un socio-économiste et bien au-delà, qui est né à Berlin et qui ensuite a dû s'exiler. Et Albert Hirschman, dans deux siècles de rhétorique réactionnaire, mettait en avant trois figures rhétoriques qui avaient été mobilisées par ceux qui s'opposaient aux réformes du progrès social depuis la Révolution française jusqu'à la mise en place de l'État-providence. En gros, c'était quoi ? C'était l'effet pervers, c'est-à-dire la réforme va avoir un effet pervers. Le deuxième argument, c'était « ça va servir à rien ». Et puis le troisième argument, c'est la mise en péril, ce que vous allez faire va casser la croissance. Bien, ces trois arguments, ce sont exactement ceux qu'on retrouve systématiquement dans le discours du lobby bancaire quand il s'oppose au renforcement des réformes. Donc c'est ça que j'essaie de décrypter dans cet ouvrage.
On en reparlera peut-être dans cette émission sur les banques centrales. Avec nous également Gilles Dufresneau. Bonjour Gilles Dufresneau.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous enseignez l'économie à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes membre de l'école d'économie de Marseille. De 2004 à 2008, vous avez été conseiller du commissaire chargé des politiques économiques de la commission de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Gilles Dufresneau, quand on enseigne l'économie comme vous le faites, est-ce que le chapitre banque centrale est important dans le cours ?
C'est un chapitre extrêmement important puisque dans les politiques économiques, il y en a deux qui sont fondamentales, la politique budgétaire et la politique monétaire.
Et banque centrale et monnaie, c'est la même chose ?
Les banques centrales ne sont pas complètement, entièrement à l'origine de la création monétaire. Il y a un certain nombre de choses qui leur échappent parce que cette création monétaire, elle vient directement du comportement des banques et des acteurs financiers. Mais elle joue un rôle tout de même très important pour la stabilité monétaire.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons un de nos correspondants à Londres, Eric Albert. Il nous dressera le portrait du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Pierre-Yves Dugas, en poste à Washington, mais de passage en France, évoquera les flottements à la tête de la Réserve fédérale américaine, et nous entendrons aussi quelques documents sonores historiques. Jezabel Coupet-Soubeyran, au mois de septembre dernier, vous avez été l'une des initiatrices de la pétition signée par 150 économistes français qui demandaient au pouvoir public de renoncer à la nomination de François Villeroy de Galhau au poste de gouverneur de la Banque de France. Pourquoi ?
Alors, plutôt que pétition, je préfère utiliser le mot lettre ouverte, parce que c'était vraiment une lettre ouverte. C'était pas une attaque ad hominem contre François Villeroy de Galhau. C'était pas non plus un plaidoyer pour soutenir une autre candidature. C'était un principe que nous souhaitions défendre et un principe d'indépendance des banquiers centraux et au-delà des régulateurs, des superviseurs, vis-à-vis des milieux bancaires et financiers. L'idée est très simple. Lorsqu'on vient du secteur bancaire, on est nécessairement imprégné des valeurs du secteur bancaire et financier et on est plus prompte à défendre les intérêts des banques qu'à défendre le renforcement de la régulation financière. Or, on a besoin d'aller plus loin dans les réformes bancaires et financières. Je crois que l'erreur, ce serait aujourd'hui de considérer que voilà, cela suffit, on a fait tout ce qu'il fallait pour installer la stabilité financière. Non, on le voit bien, il y a vraiment des manifestations encore très grandes d'instabilité financière. Les banques centrales doivent œuvrer davantage à la stabilité financière qu'auparavant. Elles doivent prendre cela en considération dans leur action, alors qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Et pour cela, eh bien, on a besoin de banquiers centraux indépendant des milieux bancaires et financiers. C'était cela que nous faisions valoir dans cette lettre.
Ce que vous voulez dire, c'est que depuis la crise de 2008-2009, les réformes bancaires n'ont pas été assez loin ?
Oui, je crois qu'on est allé sans doute dans la bonne direction. Il y a des règles un peu plus strictes pour les banques, il y a une réorganisation des dispositifs de supervision, ça va dans le bon sens, mais ça ne va pas suffisamment loin. On n'a pas encore vraiment correctement renforcer la solvabilité des banques. On a mis en place des mécanismes.
La solvabilité, ça veut dire qu'elles aient assez de fonds.
Qu'elles aient assez de fonds propres pour assumer leurs pertes en cas de problème. On a également mis en place des mécanismes dits de résolution des difficultés bancaires pour être capable, si vous voulez, en cas de problème, là encore, eh bien, de mobiliser davantage les gros créanciers des banques plutôt que de faire reposer la charge systématiquement sur les contribuables. Il y a plein de choses encore en discussion, notamment sur la taxation des transactions financières, sur la réforme structurelle des banques. Il y a des mesures à prendre au niveau européen et il y a beaucoup de résistance aujourd'hui. On a besoin, si vous voulez, de régulateurs, de banquiers centraux qui, lorsqu'ils participent aux discussions internationales, aient la stabilité financière chevillée au corps et pas seulement l'éthique chevillée au corps, pour reprendre une expression qui a prévalu dans ce débat.
Et vous pensez que François Villeroy de Galhau, qui a passé 12 ans, si je ne m'abuse, comme un des principaux dirigeants de la BNP Paribas, n'incarne pas cette stabilité et cette rigueur dans la lutte contre l'instabilité financière?
Je crois que malgré lui, il est nécessairement imprégné des valeurs du secteur bancaire et il aura davantage à cœur, me semble-t-il, et c'est naturel, de défendre les champions nationaux, les grandes banques systémiques françaises qui pèsent chacune très très lourd. Et très lourd si vous comparez leur taille de bilan au produit intérieur brut de leur pays d'origine. Généralement, si vous voulez, le bilan équivaut au produit intérieur brut du pays d'origine, c'est-à-dire à la richesse créée en une année.
Le bilan de la BNP Paribas ou du Crédit Agricole Crédit Lyonnais équivaut...
Le bilan de BNP Paribas, c'est effectivement une année entière de richesse créée au sein d'un pays comme la France.
Vous, Gilles Dufresneau, vous avez signé cette pétition ?
Alors, je n'ai pas signé cette pétition. Peut-être que je peux dire quelques mots. Je partage beaucoup de choses de ce que Isabelle vient de dire. Je souhaiterais, peut-être pour nuancer, dire quelques petites choses. Le premier point, c'est que, effectivement, les banques nous ont posé énormément de problèmes parce qu'elles ne sont pas suffisamment régulées, effectivement. Mais il faut pas non plus voir le lobby bancaire partout. Et moi, je voudrais juste rappeler une petite histoire. Il y a une réforme de la Banque de France qui a eu lieu en 1973. Dans le cas de cette réforme, pour résumer, cette réforme disait que l'État, lorsqu'il souhaitait s'endetter, au préalable, il recevait des avances directes de la Banque de France. Et cette réforme a en quelque sorte réduit les avances directes de la Banque de France à l'État en obligeant l'État à aller se financer un petit peu sur les marchés. Et à l'époque, on avait dit, mais c'est le lobby bancaire, essentiellement pour deux raisons. Georges Pompidou, qui était président de la République, avait été directeur général de la Banque de Rothschild. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, avait comme très proche conseiller quelqu'un qui s'appelait Michel Pébrot, qui avait été président du conseil d'administration de la BNP, justement. Et on avait dit, voilà, c'est le lobby bancaire qui a besoin de gagner de l'argent et donc qui pousse à cette réforme. Et en fait, pas du tout, il y avait d'autres raisons. Alors, premier point, je pense que le lobby bancaire, effectivement, joue un rôle important, mais ne le voyons pas non plus partout. Le deuxième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, me semble-t-il, si vous voulez réformer le secteur bancaire, il faut un minimum le connaître. à la tête de la plupart des banques centrales dans le monde, vous avez d'anciens banquiers. La vraie question, c'est la question de l'indépendance, c'est-à-dire
L'indépendance d'esprit.
C'est de l'indépendance d'esprit. Il faut que le banquier central soit suffisamment autonome, prenne et suffisamment de hauteur de vue pour ne pas se faire lier les mains par le lobby bancaire. Donc moi je n'avais pas signé la pétition simplement parce qu'on m'a pas demandé de la signer et je pense que je ne l'aurais pas signée de toutes les manières.
Oui, Jézabel, je vous redonnerai la parole dans une seconde. D'accord. Mais d'abord on va écouter la défense de l'intéressé, de l'impétrant François Villeroy de Gallo, car les pouvoirs publics, malgré votre lettre ouverte, Jézabel Coupet-Soubeyran, ont persévéré. Et le 29 septembre dernier, la commission des finances de l'Assemblée nationale entendait François Villeroy de Gallo, qui à cette occasion a défendu son indépendance d'esprit. On l'écoute.
Je suis avant tout un homme de service public. J'y ai passé déjà 20 ans de ma vie professionnelle, marqué notamment par deux grands engagements, la construction de l'Union économique et monétaire à Paris et à Bruxelles et la réforme de la Direction générale des impôts que j'ai eu l'honneur de diriger. En 2003, quand je suis allé en entreprise, j'ai dit que c'était pour moi une autre façon de servir notre pays et la force de son économie. Et il paraît que l'expression a surpris des deux côtés de la frontière entre service public et entreprise. Mais oui, je crois qu'il ne faut pas opposer à l'excès ces deux mondes. J'ai appris à bien connaître les entrepreneurs, mais tous ceux qui me connaissent savent que l'intérêt pour la chose publique ne m'a jamais quitté. Je crois à la responsabilité sociale de chacun, mais d'abord des dirigeants, y compris économiques. Je crois à l'éthique, y compris en matière financière. J'ai toujours dit ce que je pensais des excès de la finance et de certaines rémunérations. Je me suis engagé pour le développement du microcrédit et de l'entrepreneuriat social. Si j'ai décidé de quitter BNP Paribas, c'était pour être un homme libre et c'était pour rendre, je crois, un service utile à travers le rapport que j'ai pu remettre sur le financement de l'investissement des entreprises. Ce rapport montre ce que je peux apporter de connaissances du terrain et aussi d'indépendance par rapport aux banques.
Indépendance par rapport aux banques, l'expression est au moins deux fois dans cette déclaration, Jézabel Coupet-Soubeyran. Ça ne vous convainc pas malgré tout?
Écoutez, ce que je constate en tout cas, c'est que ce discours insiste sur la liberté. Hein, et sur cette nécessité d'indépendance d'esprit. Et je suis pas certaine que le discours aurait été le même s'il n'y avait pas eu cette lettre ouverte. Donc je me dis que cette lettre a été utile. Elle a été utile à la collectivité et elle a été utile aussi sans doute à François Villeroy de Gallo, parce que je crois que justement il sera plus libre après cela qu'avant, plus en capacité de résister aux pressions éventuelles du secteur bancaire et financier. Donc voilà, je regrette pas du tout cette action, bien au contraire. Je voudrais juste revenir un peu sur l'expertise, parce que c'est un argument qui revient très souvent. On nous dit, bien pour faire un bon banquier central, pour faire un bon superviseur, il faut avoir l'expertise du secteur bancaire et financier. Entendu. Mais de quelle expertise s'agit-il? Un banquier central a surtout besoin d'une expertise macroéconomique, d'une perspective globale dans la conduite de la politique monétaire, dans la surveillance d'ensemble du système financier. Le superviseur, lui, il a besoin d'une expertise dans le contrôle des risques. Alors, à part s'il s'agit d'un banquier qui, justement, aurait eu en charge, par exemple, la direction de la conformité, du contrôle des risques au sein de son établissement, un dirigeant de banque, généralement, ne présente pas cette expertise macro qui prédispose à la conduite de la politique monétaire et puis à la surveillance globale du système financier.
Gilles Dufresneau, je vous ai vu tiquer, lever le sourcil écoutant François Villeroy de Gallo.
Alors, sur ce que vient de dire Jézabel, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que quand on fait de la politique monétaire, il y a quelque chose qui est très important, qu'on appelle les canaux de transmission de la politique monétaire. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces canaux peuvent échapper à la Banque centrale en raison du comportement du secteur bancaire. Il faut donc bien connaître le secteur bancaire, c'est quelque chose qui est fondamental. Bien entendu, il faut également avoir une vue plus macroéconomique, plus globale, qu'on a, me semble-t-il, généralement, quand on est... Je ne défends pas les banques, je ne suis pas banquier, mais qu'on a généralement, quand on occupe des postes importants, que ce soit dans le secteur de la banque ou dans les secteurs des grandes entreprises, ne serait-ce que parce qu'on doit négocier, ne serait-ce que justement parce que pour être un bon ou un mauvais lobby, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur la manière dont fonctionne le monde d'un point de vue macroéconomique. Donc, je ne suis pas complètement d'accord. Alors, je crois que le problème n'est pas dans ce que disait Monsieur Leroy de Gallo, la question ne porte pas sur l'éthique morale, c'est pas du tout la question. La question, c'est sur est-ce qu'il aura les mains libres vis-à-vis du secteur bancaire pour mener, enfin, convenablement la politique monétaire.
Ça m'amène à la question clé de cette émission. Quel est le rôle d'une banque centrale, Elisabeth Coupet-Soubeyran?
Le rôle d'une banque centrale aujourd'hui, ça reste tout d'abord, si vous voulez, d'essayer d'assurer la stabilité monétaire, c'est-à-dire d'essayer d'assurer la stabilité des prix. Alors, il y a quelques années, assurer la stabilité des prix, ça voulait dire lutter contre l'inflation. Et les banques centrales avaient eu l'impression, d'ailleurs, qu'elles étaient passées maîtres dans l'art de lutter contre l'inflation, puisque jusqu'à la crise, on était dans une période de très grande stabilité des prix.
Vous parlez de quelle crise?
Alors, jusqu'à la crise enclenchée en 2007-2008. Donc, voilà, l'objectif sur lequel se concentraient les banques centrales jusque-là, c'était la stabilité des prix. Aujourd'hui encore, eh bien, il faut assurer la stabilité des prix, mais on est dans une configuration qui est très différente, puisque on est dans une configuration de déflation, c'est-à-dire d'un niveau général des prix qui stagne ou qui recule. D'accord? Et ça s'accompagne, en fait, d'une atonie, de l'activité économique. Donc, aujourd'hui, principale mission des banques centrales, essayer de faire reculer le spectre de la déflation. Et c'est pas gagné pour toutes, en particulier pour la Banque Centrale Européenne. Mais il y a une autre mission qui est devenue fondamentale et qui s'est imposée avec la crise, c'est la stabilité financière. Aujourd'hui, plus qu'avant, les banques centrales doivent œuvrer à la stabilité financière, c'est-à-dire qu'elles doivent prévenir, beaucoup plus qu'elles le faisaient auparavant, les manifestations de l'instabilité financière. Ce qu'on peut d'ailleurs dire des banques centrales, c'est qu'elles ont leur part de responsabilité dans la crise qui s'est déclenchée en 2007-2008, précisément parce que en se concentrant exclusivement sur la stabilité monétaire, sur la stabilité des prix, sur l'inflation, elles ont contribué à installer un environnement macroéconomique assez tranquille où les agents, notamment les banques, ont pris beaucoup de risques. Et ce faisant, eh bien, elles ont contribué, peut-être à leur insu, à l'instabilité financière.
L'instabilité financière, la contrôler, c'est le rôle des banques centrales aujourd'hui, Gilles Dufresneau ?
Oui, naturellement. Alors, juste avant, je souhaiterais juste compléter ce qui vient d'être dit pour dire que les banques, me semble-t-il, ont deux autres missions.
Les banques centrales.
Les banques centrales, excusez-moi, ont deux autres missions. Le soutien de l'économie. L'économie mondiale est en récession. Enfin, il y a eu un recul, en tout cas, de la croissance économique. Donc, cet objectif est revenu au centre de leurs préoccupations, mettre en place des mesures pour soutenir les économies. Il y a un certain nombre de mesures dont on parlera sans doute plus tard. Et puis, d'autre part, elles se sont retrouvées face à une contrainte qui est que les États, dans un certain nombre de pays, sont surendettés. Il y a ce qu'on appelle le retour de la dominance budgétaire, c'est-à-dire que les banques centrales doivent aussi un petit peu se préoccuper du fait d'éviter que les États qui sont surendettés ne tombent en faillite. Donc,
il y a un certain nombre de la Grèce.
C'est l'exemple de la Grèce, mais pas simplement. Vous avez actuellement, par exemple, la Banque Centrale Européenne, où elle rachète un certain nombre de dettes de pays. C'est une façon détournée.
On peut en parler en Afrique aussi?
Pas en Afrique. Là, la situation est un peu différente, mais au moins en Europe, ce qu'essaie de faire la Banque Centrale Européenne, c'est de s'arranger pour que les taux longs sur la dette publique diminuent. Et une des façons de le faire, c'est de racheter un certain nombre de... Donc, il y a ces deux missions qui sont devenues aussi importantes. Et effectivement, en plus de ça, il y a l'objectif de stabilité financière.
Elisabeth Coupet-Soubeyran,
oui.
Un dernier mot de cette
Oui, tout cela revient
partie.
À dire, si vous voulez, qu'on attend quand même beaucoup des banques centrales. Et peut-être qu'on attend trop, finalement, des banques centrales. Et en particulier, peut-être qu'on attend trop de la Banque Centrale Européenne dans la zone euro, qui a un peu lutté toute seule, quand même, contre le spectre de la déflation. On a besoin, en politique économique, d'une combinaison d'instruments. Ce qui a fait défaut dans la zone euro, c'est l'instrument budgétaire. On peut pas tout attendre de la politique monétaire. On peut pas attendre de la politique monétaire à la fois qu'elle permette de lutter contre la déflation, qu'elle relance la croissance, qu'elle fasse très attention à ses effets sur la stabilité financière. Il aurait fallu combiner la politique monétaire avec d'autres instruments.
Eh bien, la Banque Centrale Européenne, nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, place à l'actualité avec un flash d'informations. On se retrouve dans quelques minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous parlons des banques centrales et des banquiers centraux, de leur rôle dans l'économie mondiale avec deux invités à ma droite. Jézabel Coupet-Soubéran, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur aux éditions Michalon d'un livre intitulé Blabla Banque, sous-titré Le discours de l'inaction. À ma gauche, Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille et de 2004 à 2008 conseiller du commissaire chargé des politiques économiques de la commission l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons beaucoup parlé de la Banque de France, mais on le sait, les pays de la zone euro ont une banque centrale, la Banque Centrale Européenne dont Jézabel Coupet-Soubéran parlait à l'instant. Pourquoi y a-t-il encore une Banque de France ou une Banque Centrale Allemande quand il y a une Banque Centrale Européenne, Jézabel Coupet-Soubéran?
On a, dans la zone euro, un système européen de banques centrales. D'accord? La Banque Centrale Européenne ne travaille pas toute seule. Les banques centrales nationales sont les relais de la politique monétaire. Et pour certaines, elles sont également, à travers justement leur gouverneur, très impliquées dans la supervision.
Alors, on a beaucoup... Qu'est-ce que vous appelez la supervision?
Alors, la supervision...
C'est un terme que vous employez depuis le début de l'émission.
Oui, tout à fait. La supervision, c'est la surveillance des établissements bancaires. On surveille qu'ils respectent bien les règles de bonne gestion, les règles prudentielles qui leur sont imposées. Donc il y a des autorités de contrôle dans chaque pays qui surveillent la bonne application de ces règles. Cette supervision a été réorganisée à l'échelle européenne avec l'Union bancaire. La Banque Centrale Européenne joue désormais un rôle majeur pour surveiller les établissements bancaires dits importants. Et les autorités de contrôle nationales, elles, jouent un rôle dans la surveillance des établissements de moindre importance. Mais même sur les établissements de grande importance, il y a une collaboration étroite entre la Banque Centrale Européenne et puis les autorités de contrôle nationales. Donc quand on entend, si vous voulez, que la Banque de France aujourd'hui n'a plus tellement d'importance, c'est totalement faux. Elle est impliquée dans la conduite de la politique monétaire. Et elle est impliquée également dans la surveillance des établissements bancaires. Et elle va jouer un rôle majeur aussi dans la définition d'instruments un peu nouveaux de surveillance plus globale du système financier, dans ce qu'on appelle la politique macroprudentielle qui sera menée à l'échelle de la France en étant membre de droit du Haut Conseil de stabilité à l'échelle nationale. Et puis, il y a la déclinaison européenne.
Gilles Dufresneau, le rôle d'une banque centrale et de la Banque Centrale Européenne, ça n'est pas surtout d'imprimer des euros?
Oui, elle fait évidemment, c'est naturel, ça c'est dans son travail de base, si on peut dire ça. Mais pas seulement, vous savez, vous avez une Banque Centrale Européenne qui doit s'occuper de la politique monétaire de une diversité de pays qui ont des situations macroéconomiques assez différentes. Et donc c'est très important que les banques centrales nationales puissent participer à la décision de politique monétaire, ne serait-ce que parce qu'elles sont peut-être les mieux placées pour fournir des indications sur la situation macroéconomique des pays. C'est aussi l'occasion de confronter, pour avoir une idée de la situation macroéconomique dans la zone euro, de confronter un petit peu ce qui se passe dans les différents pays. Donc leur rôle est extrêmement important. Deuxièmement, ces banques centrales nationales, il faut bien qu'elles soient le relais, comme ce que vient de dire Jézabel, le relais des décisions qui sont prises collectivement. Donc lorsque les banques ont besoin d'emprunter de l'argent, eh bien elles vont à un guichet, par exemple en France, qui est ouvert par la Banque de France. Et puis il y a également un rôle de service que la Banque de France rend. On a par exemple en France un problème très important de surendettement des ménages, par exemple. Donc la Banque de France s'occupe, fournit un certain nombre d'informations dessus, et elle fournit également des services aux entreprises, elle classe les entreprises, donc vous voyez, elle reste tout de même très importante.
Alors, on entend régulièrement dans les médias, et probablement pour beaucoup d'éditeurs c'est un mystère, dire que la Banque Centrale Européenne a maintenu ou réduit ou levé son taux de base. Qu'est-ce que c'est que ce taux de base, Jézabel Coupet-Soubéran?
Alors, on appelle ça plus exactement le taux directeur, d'accord? Donc, la Banque Centrale Européenne, comme les autres grandes banques centrales, comme la Fed, a réagi à la crise dans un premier temps en abaissant son taux directeur, parce que c'est le taux qui conditionne, si vous voulez, le refinancement des banques. Hein, c'est le prix de l'argent pour les banques. C'est le prix auquel elles se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un taux très important qui, bah, normalement, ensuite, si vous voulez, doit se répercuter sur les taux que les banques pratiquent elles-mêmes vis-à-vis de leurs clients quand elles octroient des crédits. Mais ça, cela n'a pas suffi à baisser les taux d'intérêt, à baisser le taux directeur. Cela n'a pas suffi à endiguer complètement la crise et puis à relancer nos économies. Donc il a fallu que les banques centrales, en particulier aussi la Banque Centrale Européenne, en passent par ce qu'on a appelé des mesures non conventionnelles. Alors ces mesures non conventionnelles, eh bien elles ont consisté notamment, si vous voulez, à assouplir encore plus les conditions de refinancement des banques. Ça, c'était plutôt côté BCE jusqu'à récemment. Et puis, du côté donc de la Réserve fédérale américaine, les mesures non conventionnelles ont surtout consisté à intervenir sur les marchés de titres et à racheter des titres pour faire augmenter le prix de ces titres qui baissaient sur ces marchés et pour arriver à faire baisser les taux d'intérêt de plus long terme associés à ces titres. Alors, ce qu'on a reproché à la Banque Centrale Européenne, c'est au fond d'avoir un peu lâché trop tôt, si vous voulez, ces mesures non conventionnelles, et puis surtout de s'en être tenu à un assouplissement du refinancement des banques. Donc on lui a dit, ce serait pas mal que vous fassiez, vous aussi, du quantitative easing, c'est-à-dire que vous procédiez à ces achats de titres, comme la Réserve fédérale américaine, ce à quoi s'est converti la Banque Centrale Européenne depuis janvier 2015. Donc elle a prévu ce type d'opération.
Alors le rôle de la Banque Centrale Européenne, somme toute, c'est quelque chose d'assez neuf dans l'histoire économique et monétaire européenne. Et son rôle, peut-être ses limites, ont été posées par les politiques. Écoutez cet échantillon de déclarations puisées dans les archives de la documentation sonore de RFI.
D'abord, elle ne décide pas la politique économique. C'est le Conseil européen. Ce sont les 12 chefs d'État et de gouvernement, les politiques élus au suffrage universel. Ce ne sont pas les sages ou les techniciens de la Banque centrale. Et les techniciens de la Banque centrale sont chargés d'appliquer dans le domaine monétaire les décisions prises par les 12 chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire par les politiques qui représentent leur peuple.
La position de la France est toujours la même. Nous avons un candidat à proposer qui est Jean-Claude Trichet. Je crois avoir compris qu'il y avait d'autres candidats, en tout cas un autre. Et les Français sont fermement attachés à la candidature qu'ils présentent. C'est normal parce qu'ils pensent qu'elle est bonne. Les négociations qui peuvent exister pour savoir quelle solution trouver peuvent donner lieu à des échanges d'arguments.
Très rapidement, M. Duisenberg nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas assumer ce mandat jusqu'à son terme. On ne rit pas. Chacun a ses raisons personnelles. Il n'entendait pas assumer ce mandat jusqu'à son terme, mais qu'il serait heureux de porter l'euro sur les fonds baptismaux, c'est-à-dire d'assumer l'ensemble de la réforme jusqu'à ce que les monnaies nationales aient été retirées à l'occasion du premier semestre de 2002. Il a tout de suite été entendu que le deuxième président serait un Français en la personne de M. Trichet, l'actuel gouverneur de la Banque de France.
Il est temps de mettre la monnaie au service de l'économie. Certes, la France seule ne peut pas influencer la politique monétaire de la BCE, mais il nous appartient à nous, Français, de déclencher une offensive diplomatique pour obtenir de nos partenaires qu'ils fassent avec nous pression sur la BCE, pour qu'on mette en place un véritable gouvernement économique de l'Europe. L'Europe ne peut pas continuer avec une monnaie unique, sans gouvernement économique. Ce n'est pas aux banquiers centraux de définir la politique économique de l'Europe. C'est au ministre des Finances.
Alors vous aurez successivement reconnu François Mitterrand, Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des Finances, Jacques Chirac, alors président de la République, et Nicolas Sarkozy en mars 2007, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, élection qu'il devait remporter, on le sait. Ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est qu'entre la déclaration de Mitterrand et celle de Sarkozy il y a 15 années, Mitterrand s'exprimait en 92, Sarkozy en 2007, et ils disent presque la même chose, à savoir que la Banque Centrale Européenne reste marginale par rapport aux décideurs politiques, Gilles Diffreno. On sent comme une crainte des politiques par rapport à cette banque.
Alors ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est que le pouvoir politique a toujours souhaité entre guillemets dicter la politique monétaire. C'est plus le cas. Je rappelle que pour la Banque de France, depuis 1993, la Banque de France était déjà très indépendante. Il y a une réforme de ses statuts. Et aujourd'hui, il y a justement pour éviter cette tentation que la politique monétaire soit utilisée à des fins, soit pour financer excessivement les déficits budgétaires, soit ce qui peut être une source de d'inflation dans un pays. Les banques centrales modernes ont décidé qu'il fallait qu'il y ait une certaine indépendance vis-à-vis des gouvernements. Il y a toujours cette tentation des pouvoirs publics de revenir dans le jeu, en quelque sorte, et de remettre un petit peu en cause cette indépendance.
On va s'intéresser à un de ces personnages, le gouverneur de banque centrale. Depuis juillet 2013, la Banque d'Angleterre a un nouveau patron, on les appelle, vous savez, les gouverneurs, Mark Carney, qui fait couler beaucoup d'encre, tant par sa personnalité que par ses déclarations. Éric Albert, bonjour, vous êtes un de nos correspondants à Londres. Mark Carney, c'est un peu la rockstar au cœur de la City.
Oui, Mark Carney a un petit côté hollywoodien. D'abord par son physique, hein, il est souvent comparé à l'acteur George Clooney. Il a la même mâchoire carrée, la même mèche sur le côté. Et puis, il a tout juste 50 ans. Et pour la petite histoire, il court le marathon en 3h30. C'est un temps absolument excellent. Au-delà de l'apparence, ceci étant dit, Mark Carney est aussi un banquier central qui est allé plus loin que les autres dans sa lutte contre la crise financière. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement britannique est allé le chercher. Avant la Banque d'Angleterre, il était le gouverneur de la Banque du Canada. Et là-bas, il a osé faire ce que les banquiers centraux évitent normalement. Il a annoncé à l'avance qu'il n'allait pas toucher au taux d'intérêt pendant au moins un an. Cette promesse de garder les taux au plus bas, alors qu'on était en pleine crise, a rassuré les marchés. Et ça a aidé le Canada à sortir un peu plus rapidement de la récession. En venant au Royaume-Uni, Mark Carney a recommencé. Il a promis de ne pas toucher au taux d'intérêt tant que le chômage était au-dessus de la barre de 7%. Cette fois-ci, ça a un petit peu moins bien marché parce que le chômage a baissé tellement rapidement que la limite a été franchie très vite. Mais pourtant, les taux d'intérêt n'ont toujours pas augmenté. Ce qu'en retiennent les marchés financiers, ceci étant dit, c'est que Mark Carney est vraiment un banquier central qui prône avant tout la croissance économique et sur lequel ils peuvent compter.
Alors Eric, il y a le travail de banquier central de Mark Carney, mais pas seulement, parce qu'il s'aventure souvent sur des terrains assez inhabituels pour un banquier central, notamment par exemple le changement climatique, ou encore mercredi soir, il est intervenu dans le débat sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, n'est-ce pas Eric ?
Mark Carney frôle effectivement la limite entre le banquier central et l'homme politique. À chaque fois, il fait attention à ne pas franchir la ligne en habillant son discours de propos financiers, mais il a notamment tiré la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Pour lui, le monde de la finance n'y prête pas assez attention et il risque de ne pas voir venir les conséquences économiques négatives que ça pourrait avoir. Cette semaine également, il a intervenu sur la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. C'est un sujet politiquement ultra sensible ici. Et Mark Carney a déclaré que l'appartenance à l'Union européenne avait été positive pour l'économie du Royaume-Uni. C'est évidemment très controversé comme déclaration, même s'il a aussi précisé qu'il fallait des réformes dans l'Union européenne. Reste que ces saillies politiques ne plaisent pas à tout le monde. Il y a pas mal d'économistes qui pensent que Mark Carney déborde de son mandat, qu'il devrait se concentrer sur son rôle de banquier central. Mark Carney répond qu'au contraire, ces grandes questions ont une influence sur l'équilibre de long terme du Royaume-Uni et donc que ça relève de sa compétence.
D'ici. Écho d'ailleurs sur la radio mondiale.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons Banque Centrale avec Gilles Dufresneau et Jézabel Coupet-Soubéran. On vient d'entendre le portrait qu'Éric Albert nous a fait de Mark Carney. Il était gouverneur de la Banque Centrale du Canada. Le voilà à la Banque d'Angleterre. Est-ce que, Jézabel Coupet-Soubéran, il y a un marché du gouverneur? La fonction n'est plus attachée à la nationalité?
Oui, d'ailleurs, ça a choqué beaucoup d'Anglais hein, que Mark Carney soit choisi pour présider la Banque d'Angleterre, parce que c'était le premier gouverneur qui ne soit pas anglais depuis la fondation de la Banque d'Angleterre en 1694. Alors, ce qui est quand même assez curieux dans la petite histoire, quand même, c'est que ce qui aurait pu les choquer, c'est que Mark Carney était un ancien banquier. D'accord. Il a également, comme Mario Draghi, de la Banque Centrale Européenne.
Qui est passé par Goldman Sachs.
Qui est passé par Goldman Sachs, exactement. Donc, Marc Carney, il a été chez Goldman Sachs entre 1988 et 2003. Donc, si vous voulez, c'est un sacré contre-exemple, quand même, Marc Carney, par rapport à ce qu'on disait, en début d'émission, parce que il est passé par le secteur bancaire. Donc, il a cette expertise, hein, du secteur bancaire. Et, a priori, on pourrait se dire que, il était quand même exposé à un sérieux problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il pouvait être imprégné des valeurs du secteur bancaire et financier et qu'il aurait pu ne pas être aussi prompt, si vous voulez, à essayer de renforcer la stabilité financière. Or, c'est vrai qu'il a mis la Banque d'Angleterre vraiment sur cette ligne qui consiste à renforcer la régulation financière, se préoccuper davantage de la stabilité financière. Mais j'aimerais quand même donner quelques éléments de précision sur ce fameux...
Si vous aviez été britannique, vous auriez fait une lettre ouverte pour protester contre sa nomination.
Oui, a priori je l'aurais fait, bien sûr, parce que a priori il y avait un problème de conflit d'intérêts, mais j'aurais peut-être regardé les choses un tout petit peu différemment. Pourquoi ? Parce que il y a quand même deux bémols dans le cas de Marc Carney. Le premier bémol, c'est qu'il vient précisément du Canada et qu'il est imprégné de la culture prudentiel du Canada.
Alors, prudentiel, ça veut dire ?
Ça veut dire que le Canada est un pays qui s'est toujours beaucoup préoccupé du risque du secteur bancaire et qui a toujours été très attaché à la prévention d'une prise de risque excessive de son secteur bancaire. Concrètement, le Canada ne s'est pas laissé, si vous voulez, enrôler dans les fameux produits subprime. D'accord. Ils ont été très attentifs à la distribution du crédit sur la période qui a précédé la crise financière. Donc il y a cet aspect-là. Et puis deuxième aspect, quand Marc Carney a travaillé chez Goldman Sachs, au début c'était précisément dans le contrôle des risques. Ça change un petit peu la donne. Et puis enfin, il y avait un délai de carence, si je puis dire, de 9 ans entre le moment où Marc Carney a quitté Goldman Sachs et puis le moment où il a rejoint la Banque d'Angleterre. Bon, ça fait quand même, si vous voulez, une grosse différence avec François Villeroy de Galhau qui, il y a 6 mois encore, travaillait pour BNP Paribas.
Alors, Gilles Dufresnoy, est-ce que le gouverneur de la Banque Centrale décide seul des hausses ou des baisses de taux ? Est-ce que c'est un homme seul, une rockstar, comme on disait tout à l'heure ?
Non.
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est entouré ?
Naturellement, il est entouré, il y a un directoire, tout ceci est réfléchi de façon collective. Au vu de la situation macroéconomique, alors ce que j'ai noté dans ses propos, c'est que ce qu'il dit en substance, c'est que il n'y a pas que l'inflation comme objectif, la croissance est quelque chose qui est également importante. Et au Royaume-Uni, c'est une tradition, la plupart des gouverneurs de la Banque d'Angleterre ont toujours fait attention à équilibrer en quelque sorte l'objectif de stabilité des prix et aussi l'objectif de croissance économique. Donc on retrouve ça dans ses propos, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il est assisté dans son travail, mais il y a quelque chose qui est important pour les marchés, c'est que ce que dit le gouverneur d'une banque centrale a effet de signal. C'est-à-dire que les marchés financiers prennent des décisions, ils ont besoin d'être rassurés et... comme ils ne peuvent pas anticiper tout ce qui va se passer dans le futur, ce que dit un gouverneur de banque centrale, ça peut contribuer à les rassurer. C'est ce qu'on appelle un effet de signal. Alors c'est vrai qu'il est éclectique dans sa manière d'aborder les sujets, etc. Mais cet
vous
effet
de carnet, là.
Oui, tout à fait. Mais je crois que il accorde une importance significative à la parole, à ce que dit le gouverneur des banques centrales. Alors ça rompt un petit peu avec la tradition, parce que traditionnellement on dit justement un gouverneur de banque centrale, ça doit se taire parce que le moindre mot peut affoler les marchés. Et lui, il a exactement l'attitude inverse. C'est au contraire...
À tel point d'ailleurs, Gilles Dufresnoy, que le gouverneur d'une banque centrale peut être contesté ou peut avoir des problèmes pour déterminer sa politique. C'est un peu ce qui arrive à Janet Yellen, la gouverneure de la Réserve fédérale américaine. Un dossier que suit de très près Pierre-Yves Dugas, des correspondants de RFI aux États-Unis et qui est de passage en France. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Jean-Pierre.
Quel est le problème de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, Pierre-Yves Dugas ?
La semaine dernière, John Taylor, le professeur d'économie renommé de l'université de Stanford, un républicain mais largement respecté par les démocrates, a résumé en quelques mots ce qui est à ses yeux le problème de la Fed. Il dit « Personne ne comprend ce que vous faites. Vous passez votre temps à vous exprimer publiquement et vous pensez que vous êtes transparent, mais en fait vous ne faites qu'embrouiller tout le monde. » Et John Taylor a lancé cette phrase à William Dudley, le président de la Fed de New York, qui est un ancien de la banque Goldman Sachs et qui de fait est le numéro 2 bis de la Fed puisqu'il est président de la Fed de New York. John Taylor, en tenant ses propos, a littéralement mis les pieds dans le plat.
Et comment est-ce que William Dudley a réagi ?
William Dudley a répondu en substance, et il y a bien des divergences entre nous autour de la table du comité monétaire, mais on exagère beaucoup. Le problème, d'après William Dudley, ne vient pas tant de la manière de communiquer de la Fed, mais surtout de la manière d'interpréter les signaux donnés par l'économie américaine, des signaux qui sont contradictoires. En fait, William Dudley, tout comme Stanley Fischer, qui est un ancien numéro 2 du FMI, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Israël, et qui aujourd'hui est l'autre numéro 2 bis de la Fed, Fischer et Dudley, tous les deux sont partisans d'un abandon de la politique de taux directeur quasi nul que la Fed pratique depuis la fin 2008.
Pierre-Yves Dugas, est-ce que cet avis est partagé par tous les membres du comité monétaire de la Fed ?
Et non. Il y a autour de cette table de 17 membres du comité monétaire un autre camp, qu'on appelle parfois celui des colombes. À leurs yeux, le ralentissement de l'économie en Chine, la crise dans les pays émergents, l'effondrement des cours des matières premières, la stagnation chronique dans la zone euro, tout cela entretient un risque réel de déflation qui est manifeste aux États-Unis dans la stagnation des salaires et dans l'insuffisance de la hausse des prix. Daniel Tarullo et Lyle Brainard, qui sont deux membres de la Fed nommés par Barack Obama, sont parmi les plus ardents défenseurs de ce statu quo monétaire américain. Ils soulignent que la vieille corrélation entre la chute du chômage et la hausse de l'inflation n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui.
Mais alors qu'en pense Janet Yellen, la patronne de la Fed ?
Alors cette autre démocrate, une ancienne conseillère économique de Bill Clinton, qui est à la tête de la Fed depuis 2014, semble hésiter. Mais elle semble prise au piège de la transparence qu'elle veut promouvoir. En disant beaucoup, depuis des mois, sur les facteurs qui la pousseraient à relever les taux américains pour la première fois depuis 2006, en fait, Janet Yellen a suscité des anticipations et aujourd'hui, elle a du mal à renverser ces anticipations. On se souviendra du mot d'Alan Greenspan, un patron de la Fed de 1987 à 2006. Greenspan avait dit « Si vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est que je me suis mal exprimé ».
Merci Pierre-Yves Dugas. Gilles Dufresneau, Janet Yellen, elle en dit trop, elle parle trop, elle est un peu, on a un peu l'impression que c'est un peu le grand désordre au sommet de la Réserve fédérale américaine en ce moment.
Je pense qu'on exagère parce que la situation n'est pas aussi évidente. Vous voyez, les États-Unis se sont massivement engagés dans une politique de monétaire non conventionnelle et la question c'est comment est-ce qu'on en sort ? Est-ce que c'est le moment et à quel rythme on en sort ? Alors moi je voudrais juste souligner quelque chose, c'est que les Américains portent une très grande responsabilité dans ce qui pourrait se passer dans le monde selon la manière dont ils sortent de cette politique non conventionnelle. Je vais juste dire quelque chose, c'est que admettons que demain la Réserve fédérale américaine remonte ses taux d'intérêt. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir des répercussions très importantes pour un grand nombre de pays dans le monde, des pays émergents, des pays en voie de développement qui seront obligés de remonter également leurs taux d'intérêt pour que les capitaux ne partent pas. Et quand vous remontez les taux d'intérêt, il y a un risque de provoquer une récession dans un pays. Donc, peut-être qu'il faut que la Fed hésite, il faut bien réfléchir aux conséquences, pas simplement pour les États-Unis, mais pour le monde entier, que pourrait avoir cette remontée des taux d'intérêt. Et personnellement, je trouve que Yellen Jarrett a parfaitement raison. Il faut vraiment, il faut vraiment peser. C'est pas aussi simple parce qu'il y a pas les répercussions. Elles sont pour le monde entier.
Isabelle Coupé-Soubéron, pour les pays émergents africains, par exemple, en développement, cette décision de la Réserve fédérale américaine, potentiellement, elle est dévastatrice s'ils relèvent leur taux ?
Oui, effectivement, Gilles a tout à fait raison. C'est vrai que s'il y a une remontée trop brutale du taux d'intérêt directeur américain, ça va provoquer des déplacements brutaux de capitaux dans le monde, et en particulier dans le monde émergent, et ça pourrait être très très déstabilisant. Donc c'est quand même, si vous voulez, cette hésitation de Janet Yellen, il me semble aussi qu'elle traduit quelque chose d'intéressant qu'il n'y avait pas avant, à savoir que la Réserve fédérale américaine se préoccupe peut-être un peu plus qu'avant des conséquences de sa politique monétaire sur le monde entier. Alors, il ne faut pas être naïf, elle se préoccupe aussi avant tout des incidences que pourrait avoir une remontée trop rapide des taux d'intérêt sur l'économie américaine. Mais, vous voyez, elle a aussi quand même le souci de ce que ça peut entraîner dans le monde entier. Mais il me semble que c'est plutôt une bonne chose.
Alors, Gilles Dufresneau, On parlait tout à l'heure de l'Afrique. Il y a une banque centrale en Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO. Elle ne peut pas, elle, s'opposer, par exemple, à cette montée des taux américains en baissant les siens. Est-ce qu'elle a une marge de manœuvre, la BCAO?
Non, très concrètement, la BCAO ne peut absolument rien faire. La BCAO est responsable de la politique monétaire dans les pays de l'UMOA. Et la BCAO se trouve dans cette situation un peu particulière que la politique monétaire est un peu inefficace dans le sens où les conditions ne sont pas remplies pour que les variations, par exemple, du taux directeur de la BCAO se transmettent à l'ensemble de l'économie. Vous savez, il faut qu'il y ait des marchés financiers qui soient développés, il faut qu'il y ait des marchés de la dette publique qui soient développés, il faut que les banques répercutent sur le taux des prêts qu'elles font à l'économie leur coût de refinancement. Tout ceci est assez ténu dans la zone UMOA, donc voilà, la BCAO est un petit peu limitée dans ce qu'elle peut faire.
Et donc puis, la Banque Centrale, Isabelle Coppès-Soubeyran, elle est aussi dépendante de l'environnement économique, monétaire et financier.
Ah oui, complètement, bien sûr. Il faut qu'elle analyse cet environnement et puis il faut qu'elle y réagisse. Et contrairement à ce que vous disiez, vous voyez par exemple dans le cas de la BCAO, si elle assistait à une remontée des taux d'intérêt américains, eh bien, pour ne pas avoir à faire face à des sorties trop brutales de capitaux, il faudrait qu'elle élève son taux d'intérêt, ce qui aurait des répercussions potentiellement négatives sur les économies africaines. Donc oui, les banques centrales sont dans une situation d'interdépendance. Et le problème, c'est qu'elles ont longtemps mené leur politique monétaire sans du tout se coordonner. Voilà. Bon, la coordination n'a pas beaucoup progressé, mais l'hésitation de la Réserve fédérale américaine traduit peut-être un plus grand souci aujourd'hui de ces effets d'interdépendance.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous deux, Isabelle Coppès-Soubeyran et Gilles Dufresneau, d'avoir été à ce micro. Isabelle Coppès-Soubeyran, je rappelle le titre de votre dernier livre, Blabla Banque, aux éditions Michalon. Guillaume Munier réalisait et mettait en onde cet écho d'ici écho d'ailleurs. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.